Vous êtes bien sur Station Simone. Vous écoutez les gueuloirs du Petit Citeau par le collectif 7 Prime. C'est maintenant la deuxième partie du texte de Virginie Despentes, extrait de Vernon Subutex 3, édition Grasset, avec les voix de Malika Sino et Julien Jobert, plage musicale de Patrick Laury.
Ce que les gauchistes ne comprennent pas, c'est que ce n'est pas parce qu'ils sont capables de penser « ces étrangers seraient mieux chez eux » qu'ils sont incapables de concevoir qu'ils en chient, et qu'ils en chient d'une façon qui n'est pas humaine et qui ne devrait pas être encouragée. Transhumer la misère vers des pays qui ne tiennent plus debout est une absurdité. Ce n'est pas une pensée agréable, mais ça tombe sous le sens.
Les gauchistes se pointent avec leur petite mine de chef de rayon, jamais satisfait des efforts de la caissière. Ils s'offusquent de ce qu'un gars comme moi puisse suggérer que les chrétiens et les musulmans aient du mal à cohabiter. Est-ce qu'ils se mélangent ? Ils l'ont sous les yeux, la réalité, dans sa superbe réciproque. Personne ne peut saquer personne. On n'a pas envie de vivre ensemble. Ce n'est pas vrai que les cultures se mélangent dans un chatoiement harmonieux avec des bébés métis partout qui gambaderaient en gazouillant. Ça se voit à l'œil nu que ça ne marche pas comme ça. Eh bien, ils ne veulent pas en entendre parler. Ils sont coincés dans leur pub Benetton dans les années 80, et ils n'en démordent pas. Pourtant, si on les écoute, et il a bien fallu les écouter puisqu'il n'arrête pas de l'ouvrir, on comprend vite que c'est juste une question d'étiquetage. Ils n'ont eux-mêmes qu'une seule idée en tête. Ajuster les paramètres qui définiront leurs ennemis. Ceux avec qui ils ne veulent pas parler, ceux qu'ils refusent de respecter, ceux qui sont dangereux, coupables, ceux qu'on ne veut pas entendre. Eux aussi veulent la guerre. Mais ils ne veulent pas s'entretuer avec les mêmes personnes. La différence est de taille, mais ça se termine toujours bien pour les trafiquants d'armes, cette histoire. Les propriétaires de yachts n'ont pas à s'en faire. Tout le monde veut acheter leurs armes. Les gauchistes ne veulent pas admettre que les musulmans et les chrétiens ne peuvent pas vivre côte à côte longtemps sans se mettre sur la gueule. Ils exigent d'autres ennemis, n'empêche que sur le fond. Tout le monde est d'accord. Exclure les impurs, les impropres, les empêcher de s'exprimer. Créer une catégorie de massacrables. Les frontières varient, mais le jeu des gardes-douanes reste le même. C'est toi, dehors! Je ne veux pas de ça chez moi. Le seul critère variable, c'est qui on met dans les camps. Qui est torturable, charniérable, qui mérite d'être exclu. Il y en a qui ne veulent pas vivre avec les patrons. Et d'autres les Camerounais. Il y en a qui ne veulent plus supporter les machos. Et d'autres c'est les gitans. Il y en a qui traquent l'antisémite dans leur propre rang. Et d'autres qui traquent le PD déguisé en mec marié. Mais on lave tous plus blanc. On est tous du côté du pur.
Il déteste le porno. Ça l'avilie. Il n'a pas envie de bander en regardant les femmes se rabaisser au rang de chiennes. Et pourtant, il bande. Et ça lui remplit la tête de saleté dont il n'a pas l'usage. On ne lui demande pas son avis. On lui met du porno sous le nez tout le temps. Ça le dérange. Impossible de charger un jeu ou une série sans que s'affichent des photos. Ça lui arrive de jeter un œil, c'est obligé. Ça le dégoûte. Ça l'excite et ça le dégoûte de se sentir excité par ça. Mais à qui les mecs peuvent-ils se plaindre ? Lui se sent sali par la pornographie. Il se sent abusé. Mais il va s'en plaindre à qui ?
On peut tous permettre avec les gros. Leur faire la morale à la cantine. Les insulter s'ils grignotent dans la rue. Leur donner des surnoms atroces. Se foutre d'eux s'ils font du vélo. Les tenir à l'écart. Leur donner des conseils de régime. Leur dire de se taire s'ils prennent la parole. Éclater de rire s'ils avouent qu'ils aimeraient bien plaire à quelqu'un. Les regarder en faisant la grimace quand ils arrivent quelque part. On peut les bousculer. Leur pincer le bide ou leur mettre des coups de pied. Personne n'interviendra. On a le droit de les mépriser. Et s'ils se plaignent des traitements qu'on leur inflige? Au fond, tout le monde pense la même chose. Mange moins, gros sac. Tu pourras t'intégrer.
Elle allait avoir 27 ans. Elle avait déjà eu plusieurs corps. Elle avait été une petite fille lambda, sans souvenir marquant, jusqu'à ses 10 ans. Puis elle avait basculé. Elle était devenue énorme à la puberté.
À 17 ans, une diététicienne l'avait propulsée sur les rails d'un régime draconien. Ce train-là, elle avait réussi à le prendre. Et en 6 mois, elle était devenue quelqu'un d'autre. Nouveau changement de corps. De ce bloc de graisse émergeait une jeune femme plutôt jolie, et en regardant les photos dans les magazines et en se comparant, elle comprenait qu'elle était une belle plante.
Elle avait de belles épaules, les seins hauts et bien dessinés, la taille marquée, les jambes longues, les chevilles fines.
En fait, tout au long de sa vie, un corps lui faisait face dans le miroir. Et qu'elle soit obèse, moustachue ou bombasse, c'était une étrangère. Elle avait perdu 18 kilos en 6 mois. Ça l'avait rendue furieuse que les gens changent autant d'attitude envers elle, à ce point selon les kilos qu'elle mettait ou pas sur son squelette.
Ok, elle était celle-là, la grosse.
Elle était en accord avec ça. Endosser le rôle de celle qui doit avoir de l'humour et s'intéresser aux histoires des autres.
Elle s'était habituée.
Mais que ça puisse changer du tout au tout en si peu de temps l'avait fait exploser de rage. Alors comme ça, elle pouvait être traitée de jolie fille?
Bande de connards.
Elle était invitée aux fêtes. On se poussait pour lui faire une place au café. Les garçons demandaient son numéro de portable pour lui envoyer des textos timides. Et sa colère était une tumeur qui lui rongeait les os, l'étouffant et menaçant de tout faire péter. Tout avait changé.
Il suffisait qu'elle arrive quelque part et on lui léchait le cul. Parce qu'elle portait une jolie robe. Parce qu'elle était rentrée dans le rang.
Parce qu'elle était rentrée dans le rang.
Oui, les hommes qui vivent avec des femmes hétérosexuelles savent que les blanches ont compris qu'elles devaient se reproduire. Le problème, ce n'est pas la natalité. Le problème, c'est l'Église de France. L'essoufflement de la ferveur chrétienne est un problème bien plus réel que la fréquentation des mosquées. Il y a 50 ans que l'Église aurait dû construire des cathédrales au milieu de chaque banlieue et y envoyer ses meilleurs prêtres. Qu'ils servent quelques enfants de cœur n'aurait pas été un problème s'ils avaient compris quelle était leur tâche. Aider les plus démunis. Occuper le terrain. Au lieu de quoi, ces cons de chrétiens se sont rassemblés dans les quartiers les plus riches pour célébrer les messes en latin. Comment expliquer qu'il n'y a pas de scout de France en Seine-Saint-Denis? La basilique Saint-Denis, il n'y a que des touristes. Même les Africains changent de religion. Fallait le faire quand même.
La seule chose qui nous intéresse, c'est de légitimer la violence. Il faut que ce soit pour la bonne cause. Parce qu'on veut bien avoir du sang plein les mains, mais en gardant bonne conscience. C'est la seule différence entre le sociopathe et le militant politique. Le sociopathe se contrefout d'être dans le camp des justes. Il tue sans les préliminaires, c'est-à-dire sans perdre de temps à construire sa victime comme un monstre. Les militants, eux, font ça correctement. D'abord la propagande, et ensuite seulement le massacre. Mais ce que tout le monde cherche au final, c'est l'entre-soi. N'avoir à se coltiner que des gens qui te ressemblent, pas d'étrangers. Et le ciment le plus facile à trouver pour souder un groupe restera toujours l'ennemi commun. Les grandes fortunes de France ont plutôt intérêt à faire en sorte que les petites gens se pensent français de souche victimes de la grande mosquée plutôt que se penser travailleurs pauvres expropriés par le 1%.
C'est vivifiant, la haine.
C'est vivifiant, la haine. Il n'y a qu'à aller sur Twitter pour comprendre que tout le monde en a envie. De foutre sur la gueule, s'insulter, ça fait du bien aux tripes. Ça aligne les chakras, comme dirait le hippie. Parce qu'il n'attire pas que les gauchistes comme Joyeux Drille. Il y a aussi les druides de tout poil. C'est extravagant le nombre de cons qui se rassemblent. Il y en a pour tous les goûts. Les obèses militants.
Les gouines rouges.
Les anarchistes grincheux.
Les punks universitaires.
Les putes politiques.
Les trans machos.
Les convaincus qu'il existe un autre degré de réalité et qu'il y a des portes pour y pénétrer, etc.
Arrêtez le racisme. Que ça viendrait de la peur de l'autre, de ce qu'on connaît mal. Qui est le baltringue qui a lancé cette idée-là? Un normalien, sans doute. Quelqu'un qui n'avait pas la moindre idée de ce qu'il racontait, en tout cas. La haine est un contact. On ne déteste cordialement que ceux qu'on côtoie de près. Est-ce qu'on a déjà vu en France des mouvements anti-péruviens? Jamais. Il n'y en a pas assez. On s'en fout des Péruviens, on ne les connaît pas. Quel est le Parisien furieux qui aurait le ventre qui se crispe parce qu'il croise un Sud-Américain?
Alors que les musulmans, la seule ombre au tableau, c'est que tout le monde s'y est mis. Les Blancs veulent avoir le droit d'humilier les Arabes. Ils l'ont toujours fait. Ça fait bizarre de penser que maintenant c'est l'inverse. Qu'ils peuvent débarquer n'importe où et nous terroriser. Ce n'est pas une idée agréable quand t'es blanc. Premièrement parce que tu n'as pas l'habitude, et deuxièmement parce qu'à partir de là, comment tu peux te sentir supérieur? Si on se laisse marcher dessus par des gens qu'on a tenus en échec pendant des siècles, comment veux-tu qu'on n'entre pas en crise?
Comment veux-tu?
C'était Les Gueuloirs du Petit Citeau, une création du collectif 7', enregistrée au 18 rue Charlie Chaplin à Dijon. Mise en onde par Station Simone avec l'aimable autorisation d'Elisabeth Barbazin.